Ou à Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Eric Manilakiza avec vous dans cette édition de 18h30 temps universel. D'abord, les principaux titres. Les Maliens se rendent aux urnes dimanche pour élire un nouveau président.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère.
La bande sahélienne, très touchée par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Dans le sud du Niger, musulmans et chrétiens pris dans une même concession depuis plus de 60 ans. Au Burundi, interdit de devenir mère ou père en étant encore sur le banc de l'école, le risque candidat à l'école des métiers.
Ça donne plus d'opportunités, plus de possibilités aux élèves concernés de pouvoir s'épanouir davantage qu'à travers des filières traditionnelles d'enseignement général.
Début de restitution des dépouilles de militaires américains tombés dans la guerre de Corée il y a plus de 65 ans. Le président Donald Trump remercie Kim Jong-un. Et dans 10 minutes, l'économie et les sports après le journal. Les Maliens votent pour élire leur président ce dimanche. Le sortant Ibrahim Boubacar Keïta brigue un second mandat face à 23 autres candidats. La campagne se termine ce vendredi soir. La campagne est marquée par le mécontentement face à l'insécurité, notamment dans le centre et le nord du pays, où des groupes islamistes armés continuent de sévir. À Bamako, les détails de Jacques Aristide, notre envoyé spécial.
Ce sont plus de 8 millions de Maliens qui sont appelés aux urnes ce dimanche. Dans la capitale, les Bamakois ne semblaient pas être gagnés par la fièvre électorale en ce dernier jour de campagne. Il reste que pour des observateurs, il s'agit d'une élection cruciale mais aussi à haut risque, avec comme principal enjeu la sortie de crise, une crise qui traîne les séquelles du coup d'état militaire de 2012 contre Amadou Toumani Touré, découlant notamment de l'insurrection Touareg du Mouvement National pour la Libération de l'Azawad et des djihadistes d'Ansar Dine. Il n'y a rien que quelques jours, des affrontements ont à nouveau éclaté à Tombouctou dans le nord entre communautés arabes, Touareg et Noirs. Dans le centre, ce sont les ethnies Dogon et Peul qui s'entretuent. Dans un entretien à VOA Afrique à Bamako, le directeur général de l'administration du territoire affirme que toutes les dispositions ont été prises pour assurer le bon déroulement du vote face au péril que le gouvernement veut annihiler, d'après Souleyman Amadou Sangaré, qui assure par ailleurs que la livraison des cartes d'électeurs a atteint un niveau satisfaisant. Il affirme également que la liste électorale utilisée pour émettre ces cartes a fait l'objet d'un audit indépendant, rejetant les accusations de l'opposition quant à une éventuelle fraude électorale. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Et 17 civils peuls ont été tués mercredi dans le centre du Mali. L'attaque a été attribué à des chasseurs traditionnels. Un précédent bilan s'élevait à au moins 3 morts. Au Nigeria, les insurgés de Boko Haram ont attaqué une base militaire proche du nord-est du pays avant de s'en prendre au poste de police locale. Ils étaient à bord d'une trentaine de véhicules. Le bilan des victimes est encore flou, mais les corps de 2 policiers dans civils ont été retrouvés. 9 habitants ont été blessés par des balles perdues. En Guinée, un glissement de terrain a tué ce jeudi 3 jeunes dans le nord-est du pays après de fortes pluies. Parmi eux, 2 élèves qui cherchaient de l'or pour financer leur rentrée scolaire. En République centrafricaine, le président de l'Assemblée nationale brise le silence. Abdou Karim Mekasua a dénoncé ce vendredi des complots visant à le destituer. Absent du pays pendant près de 4 mois pour des raisons de santé, le chef du Parlement a été plusieurs fois accusé d'actes visant à déstabiliser le pays. Suivez.
En mon absence, qu'est-ce que vous n'avez pas entendu ? On vous a dit que j'avais fui le pays par peur d'être arrêté ou par peur d'être destitué. Que j'étais allé préparer un coup d'État. Que j'étais parti en détournant l'argent de l'Assemblée nationale. Que, de loin, j'ai financé les opérations de déstabilisation du régime. On a même été jusqu'à annoncer que j'étais mort. Jusqu'à présent, j'ai gardé le silence, non pas par faiblesse d'esprit, chers compatriotes, croyez-le bien, mais parce que je crois dans les vertus du dialogue, parce que j'estime que c'est mon métier d'homme d'État d'apaiser les tensions.
Abdou Karim Mekassoua, président de l'Assemblée nationale à Bangui, au micro de Freeman Sipila. La Cour suprême de Côte d'Ivoire a cassé le jugement d'acquittement de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Elle a renvoyé Madame Gbagbo devant une autre cour d'assises sans donner de délai. Les motivations de la décision de la Cour suprême n'étaient pas connues dans l'immédiat. En RDC, le procureur de Goma, Dauphin Mawasso, a classé sans suite l'enquête sur la mort d'un activiste pro-démocratie dans l'incendie de sa maison. Monsieur Mawasso a déclaré qu'il n'y a aucun prévenu à poursuivre. Il a estimé que l'incendie était tout simplement un incident malheureux. Le gouvernement de Kinshasa revient sur sa décision de restreindre les visas aux Français et aux Belges. Les détails de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Tenant compte du dialogue en cours, notamment sur le traitement des dossiers de visa, les instructions relatives au principe de réciprocité sont retirées, pouvait-on lire dans un communiqué destiné aux ambassadeurs congolais signé jeudi par le ministre en charge des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Un communiqué qui contredit un autre signé par le même ministre 48 heures plus tôt et qui disait, je cite, « Il est constaté de manière non équivoque que les ambassades de Belgique et de France n'accordent plus que des visas humanitaires ou pour soins médicaux aux ressortissants congolais. » Depuis la fermeture de la maison Schengen. Il est demandé à toutes nos représentations diplomatiques d'appliquer les mêmes dispositions par principe de réciprocité. Fin de citation. Deux messages contradictoires qui ont valu de nombreuses critiques au ministre Emmanuel Ilunga, mais qui laissent transparaître clairement la volonté de Kinshasa et de Bruxelles de normaliser leurs relations diplomatiques rompues depuis janvier dernier, entraînant notamment la fermeture de la maison Schengen à Kinshasa. Et pour confirmer ce début de normalisation, le chargé d'affaires de Bruxelles à Kinshasa affirmait récemment que les canaux de communication entre la Belgique et la RDC étaient grands ouverts et qu'un dialogue était en cours. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Tchad, l'insécurité alimentaire atteint un niveau alarmant. Cette année, le PAM apporte une assistance alimentaire et nutritionnelle à 30% de personnes supplémentaires que l'an dernier. Sur un peu moins de 15 millions d'habitants, le pays compte 1 million de personnes en situation de crise alimentaire qui ne subviennent pas à leurs besoins alimentaires journaliers sans aide. Près de 3 millions de personnes se trouvent en pression alimentaire. Et la justice sud-africaine a encore envoyé ce vendredi le procès de l'ex-président Jacob Zuma au 30 novembre. C'est pour permettre à ses nouveaux avocats de s'informer du dossier. Monsieur Zuma est poursuivi pour corruption à marche d'un contrat d'armement.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Donald Trump dément une nouvelle fois avoir eu préalablement connaissance d'une réunion pendant la campagne présidentielle entre son fils et une avocate russe qui offrait des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Des informations qui sont démenties par l'ancien avocat de Donald Trump. Les détails avec Nicolas Pinon.
Michael Cohen, l'ex-avocat personnel du président, qui est tombé en disgrâce et multiplie les révélations gênantes pour son ancien client, affirme que ce dernier a approuvé la tenue de cette réunion le 9 juin 2016 à la Trump Tower à New York, siège de la campagne de Donald Trump. « Je ne savais rien de la rencontre avec mon fils Don Jr. », affirme pour sa part le président américain sur Twitter. Il accuse Michael Cohen d'inventer des histoires pour se tirer d'une sale affaire qui n'a rien à voir. Le président américain a toujours dit ne rien avoir su à l'époque de cette réunion, dont l'existence est avérée et pour laquelle Donald Trump Jr. a été entendu devant le Congrès. La campagne Trump, elle, en a toujours minimisé la portée. La révélation 9 mois après le scrutin de la tenue de cette rencontre avec une jeune femme soupçonnée d'être proche des services de renseignement russes avait fait l'effet d'une bombe dans le contexte d'une enquête fédérale sur une éventuelle collusion entre l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou, des soupçons qui empoisonnent la présidence américaine. Le procureur spécial Robert Mueller mène une enquête pour établir s'il y a eu une collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump lors de l'élection présidentielle de 2016.
Nicolas Pinault, Israël a rouvert ce vendredi les accès à l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem après avoir bouclé le site plusieurs heures. C'était en raison de heurts entre fidèles palestiniens et forces de l'ordre israéliennes après la prière du vendredi. Les détails de Abdelrahman Dia.
Le site a été fermé pendant environ 4 heures avant d'être
Il y a un problème technique. Nous nous excusons pour ces inconvénients techniques. Vladimir Poutine se dit prêt à se rendre à Washington pour rencontrer le président Donald Trump. La Maison-Blanche a indiqué que le président Trump était ouvert à l'idée de se rendre à Moscou. Le premier sommet d'Helsinki a provoqué un torrent de critiques aux États-Unis. Le président Donald Trump a remercié le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un d'avoir tenu parole pour le rapatriement des dépouilles de militaires américains morts pendant la guerre de Corée il y a plus de 65 ans. Depuis les jardins de la Maison-Blanche, M. Trump a déclaré qu'un avion transportait les restes de grands héros américains tombés pendant la guerre de Corée et rentre aux États-Unis. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Place à la Minute Éco signée Irénée Ongbo.
Un forum économique ivoiro-burkinabé s'est tenu jeudi à Yamoussoukro sous la présidence des deux premiers ministres. De 2013 à 2017, les échanges commerciaux entre ces deux pays sont passés de 255,567 milliards de francs CFA à 319,741 milliards de francs CFA, soit une hausse de 25% selon le ministre ivoirien du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME. À Londres, le cacao a touché jeudi 1668 livres sterling à son plus bas depuis un mois et demi, tandis que la cotation de New York a atteint mercredi jour 2233 dollars, son plus bas en près de 5 mois. Les analystes gardent un œil sur la météo en Afrique de l'Ouest, d'où provient 60% de la production mondiale. Si la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial, décide de ne pas relever ses prix pour refléter la baisse des cours internationaux, le marché pourrait être en déficit car les fermiers ivoiriens produiront moins alors même que la demande mondiale est robuste, ont prévenu les analystes de Rabobank. Au Cameroun, en signant un nouveau partenariat le 26 juillet avec Express Exchange, une société de droit camerounais spécialisée dans le transfert d'argent, WorldRemit, leader du transfert d'argent digital, a révélé que 25% des transferts d'argent vers le Cameroun via ces plateformes proviennent de la diaspora domiciliée aux États-Unis. Ali Dangote, industriel nigérien, a reçu un prêt de 650 millions de dollars d'Afreximbank pour financer un projet dans le but de booster ses actifs en mettant un frein aux importations de pétrole raffiné. Il espère ainsi ne plus tomber dans les pénuries de carburant.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Ce soir, c'est Nicolas Pinon. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Eric, bonsoir à tous.
Football d'abord avec cette nouvelle journée de Ligue des Champions en Afrique.
Les Zambiens du Zesco United en déplacement chez le Primero de Agosto en Angola. Difa El Jadida du Maroc face à Sétif, c'est un club algérien. Les Tunisiens de l'Étoile Sportive du Sahel qui accueillent Mbabane du Swaziland. Les Mamelodi Sundowns qui reçoivent l'AS Togo Port. Et la suite demain, Camp à la City face à l'Espérance de Tunis. Township Rollers du Botswana face à Al Ahly. Le Mouloudia Club d'Alger face au tout-puissant Mazembe. Enfin, le Wydad de Casablanca qui accueille Oroya de Guinée.
Et le gardien nigérien Ikeme reprend sa retraite sportive, n'est-ce pas?
Le gardien international de Wolverhampton, Carl Ikeme, 31 ans, a annoncé mettre un terme à sa carrière de footballeur professionnel après avoir lutté pendant des années contre une leucémie aiguë. Le mois dernier, Ikeme avait déclaré que sa maladie était en rémission totale, mais qu'il était trop fragile pour poursuivre sa
Nous avons un problème technique. Vous ne pourriez pas, malheureusement, suivre toute la page sportive. Vous l'avez donc suivi que les matchs vont reprendre en Afrique. C'est la Coupe d'Afrique. Il y a eu aussi de l'athlétisme, notamment l'auto. Tour de France et Cristiano Ronaldo qui doit payer le fisc espagnol 19 millions d'euros. Voilà les déboires judiciaires qui continuent pour Cristiano Ronaldo qui est parti, vous le savez, à la Juventus Turin. Nous reviendrons sur les informations sportives dans la prochaine édition. Ce sera à 19h30, temps universel. l'ancien pal santé. Pour terminer, l'ancien président américain Bill Clinton exhorte le monde à ne pas baisser les bras dans la lutte contre le virus VIH. Le sida tue encore près d'un million de personnes chaque année. En 2017, l'infection a fait 940 000 morts. Plus de 15 millions n'avaient pas accès à un traitement adéquat sur près de 37 millions de personnes qui vivaient avec le virus. Depuis le début de l'épidémie, au début des années 1980, le VIH a contaminé quelque 80 millions de personnes. Bill Clinton a rappelé qu'un vaccin contre le VIH et un remède contre le sida ne sont pas à portée de main, mais que le monde doit tenir bon. La 22e conférence internationale sur le sida a pris fin aujourd'hui. Elle a rassemblé à Amsterdam quelque 15 000 chercheurs, militants et personnes infectées par le VIH. Nous continuons avec les nouvelles du monde. Un groupe de partis politiques pakistanais a rejeté ce vendredi le résultat des élections législatives de mercredi remportées par Imran Khan et réclamé un nouveau scrutin, a annoncé un représentant au terme d'une réunion à Islamabad. Environ 300 personnes, soldats du régime syrien civil, ont célébré ce vendredi la fin de la présence rebelle dans une région du sud de la Syrie lors d'une cérémonie symbolique dans la ville désertée d'Oquintra aux portes d'Israël. Dans nos dossiers du jour, on vous parlait du Mali. Le Mali élit son président ce dimanche. La campagne électorale prend fin ce vendredi. Un scrutin aux enjeux cruciaux liés principalement à l'insécurité dans le nord du pays et aux violences intercommunautaires dans le centre. À Bamako, le reportage est signé Jacques Aristide, notre envoyé spécial.
C'est une campagne jugée terne qui se termine ce vendredi soir. Les Bamakois vaquent à leurs occupations habituelles, des activités ralenties par les sempiternels embouteillages. Nous sommes ici à la place Khan ACI 2000, où sont installés les quartiers généraux de plusieurs candidats, des candidats au nombre de 24, dont une femme, qui tente de mettre les bouchées doubles pour séduire l'électorat en cette dernière ligne droite.
Pour aller voter Dimas, c'est pour le travail. De jeûne et de sécurité de Mali et de la paix au Mali.
Et ma motivation pour les candidats, c'est de quelqu'un d'honnête, de sincère, respectueux, qui est prêt à faire sortir le Mali dans cette galère, qui est prêt à faire sortir la jeunesse dans le chômage et qui est prêt à mettre le pays dans la sécurité.
Les enjeux sont certes importants. Sékou Tangara est directeur de l'information à Africable Télévision.
Pour moi, il n'y a pas deux enjeux, il y en a un seul, la sortie définitive de crise, fermer la parenthèse de la crise multidimensionnelle que le Mali a connue à la faveur du coup d'État de 2012, puisqu'on a l'impression que la transition continue toujours.
L'opposition dénonce un risque de fraude dû, d'après elle, aux listes électorales utilisées pour émettre les cartes d'électeurs, une procédure qui a donné lieu à des doublons, mais le gouvernement dément et insiste pour dire qu'il n'y a qu'un fichier électoral et pas deux. Souleymane Amadou Sangaré, directeur général de l'administration du territoire.
Le fichier électoral qui a fait l'objet d'audits par l'Organisation internationale de la francophonie, c'est ce fichier électoral qui a servi à imprimer les cartes d'électeurs en République du Mali. Donc je ne vois vraiment pas de doute par rapport au fichier, au seul fichier qui est en République du Mali.
Les autorités donnent également des garanties au niveau de la sécurité qui va être assurée, disent-elles, lors du vote de dimanche. Les forces de sécurité vont déployer des éléments additionnels.
En le faisant, le gouvernement sait les périls auxquels il est appelé à faire face. Cela veut dire que les dispositions sécuritaires vraiment sont prises. Que ce soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, l'État malien est conscient vraiment de ses responsabilités en matière sécuritaire. Soyez tranquille par rapport à cet aspect.
Les premiers résultats provisoires devront être connus mardi, mais des retards ne sont pas à écarter d'après des observateurs. Un éventuel second tour est prévu pour le 12 août. Jacques Aristide, VOA Afrique, Bamako, Mali.
Merci Jacques Aristide pour toutes ces précisions. En Ouganda, l'opposition est vent debout. Elle dénonce la suppression par la justice de la limite d'âge fixée à 75 ans pour être candidat à la tête de l'État. Pour elle, le président Yoweri Kaguta Museveni s'achemine vers une présidence à vie. Pagasikura a joint Kibel Beloka, directeur de publication du journal Les Coulisses dans l'Est de la RDC. Il explique que M. Museveni bénéficie d'une bonne popularité au sein des couches rurales. Nous n'aurons pas à Kibel Beloka. Nous connaissons toujours des incidents techniques qui émaillent malheureusement cette édition. Eh bien, il disait que le président Museveni a des assises dans tout le pays, qu'il a développé le pays, que les couches rurales ont confiance en lui et que l'opposition a perdu de terrain. Et il expliquait, il parlait des atouts de M. Museveni qui doit continuer à briguer la présidence de l'Ouganda. Nous revenons sur le Mali qui a une élection cruciale ce dimanche avec des enjeux importants, la sécurité notamment. Il y a un problème sur le fichier électoral, un problème qui est soulevé par certains candidats. Timothée Donangmaï, vous étiez au Mali très récemment. Vous suivez ce qui se passe là-bas. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui?
Alors, Eric, tout à fait, j'étais de passage à Bamako, au Mali, juste avant le coup d'envoi de la campagne électorale. Et à l'époque, on notait déjà une certaine activité politique avec des partis politiques et des regroupements et qui se mobilisaient pour qui choisir son candidat, qui se mettre en ordre de bataille. Donc, c'est une élection, vous l'avez dit, cruciale pour le Mali qui cherche à sortir de cette crise qui s'est installée, un enchaînement d'événements depuis le coup d'État militaire de 2012 et l'insurrection Touareg, les djihadistes qui ont occupé le nord. Donc c'est un pays aujourd'hui qui cherche à retrouver sa stabilité. Et organiser des élections dans ce contexte-là, évidemment, Eric, présente de grands défis. Alors, vous l'avez dit, certains candidats remettent en cause la fiabilité du fichier électoral qui avait été audité par l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, quelques candidats remettent en cause ce fichier. Mais les autorités affirment, notamment le directeur général de l'administration du territoire, Souleymane Amadou Sangaré, a assuré notre envoyé spécial Jacques Aristide que toutes les dispositions ont été prises pour assurer un bon déroulement de ce scrutin. Et il a aussi dit que la liste électorale utilisée pour émettre les cartes d'électeurs a donc rappelé que cette liste a fait l'objet d'un audit indépendant. Et il a aussi rejeté les accusations quant à une éventuelle fraude électorale.
Il y a 23 candidats en lice. Est-ce qu'on peut dire qu'on a 23 projets de société?
En fait, 24 candidats, dont une femme.
Dont une femme, justement.
Oui, tout à fait. Chacun a sa petite idée concernant la façon dont il va ou elle va sortir le Mali de sa situation actuelle. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a eu la signature d'un code de bonne conduite. Donc, on espère que les gens vont s'entendre et que ce scrutin va se passer dans la sérénité. Mais il est clair que la situation reste préoccupante dans les zones du nord, de l'extrême nord du Mali, où il y a toujours cette insécurité qui est là. Et donc, on verra bien au finish comment les choses vont se passer là-bas.
Il y a 30 000 hommes déployés pour assurer la sécurité de cette présidentielle. Il y a 8 millions de Maliens qui vont aller voter. ce n'est pas assez par rapport à la population en âge de voter.
C'est vrai. Et aussi, il faut dire que le Mali est un grand pays, donc c'est pas facile de sécuriser chaque pouce du territoire national. J'imagine que les autorités maliennes, avec l'appui de la force internationale qui est là-bas, vont faire de leur mieux pour assurer la sécurité des Maliens durant ce processus, ce scrutin.
Et on a senti aussi dans le reportage de Jacques Aristide un certain engouement, notamment des jeunes qui essayaient de décrire le profil idéal d'un prochain président.
Tout à fait. Les jeunes sont très actifs au Mali. En fait, c'est un phénomène général maintenant qu'on observe en Afrique, que ce soit en RDC ou au Sénégal, un peu partout. Les jeunes ont pris conscience du rôle qu'ils peuvent jouer pour impulser le changement dans leur pays. Avant, la tendance était d'attendre que les politiques mettent en place des programmes, décident de tout. Maintenant, les jeunes prennent les choses en main et essaient d'orienter le débat. Et c'est une très bonne chose. Ce que j'ai aussi noté lors de mon passage à Bamako, c'est cette campagne zéro violence électorale. Donc, c'est une campagne qui est menée avec des affiches un peu partout et qui va amener les Maliens à éviter tout comportement qui pourrait créer des troubles, créer des violences entre groupes politiques rivaux. C'est une excellente chose, je pense que, et surtout, j'espère que les gens vont suivre cette campagne-là et qu'ils vont tout faire pour que cette présidentielle de dimanche se déroule dans la sérénité.
Tout à l'heure, dans le programme interactif de VOA Afrique que vous avez conduit, nos auditeurs se sont exprimés sur cette présidentielle de dimanche, notamment quelques idées qui convergent et d'autres qui divergent.
Alors, beaucoup de préoccupations et d'inquiétudes par rapport à la situation sécuritaire notamment. Et certains auditeurs estiment qu'il aurait fallu ramener la sécurité avant de songer à organiser des élections. Mais en même temps, on se rend bien compte que il est difficile d'avoir des conditions idéales pour une élection. Donc, dans le cas du Mali, le président Ibeka, élu en 2013, son mandat s'achève, donc il fallait bien faire quelque chose pour que qu'il n'y ait pas un vide de ce côté. Donc, beaucoup d'auditeurs ont souligné le problème de la sécurité. Un auditeur malien, lui, s'en est pris à la population. Il dit que les gens se laissent corrompre par quelques billets de banque, quelques t-shirts, quelques gadgets durant les campagnes électorales, au lieu de se concentrer sur les programmes de chaque candidat et d'essayer de voter pour le meilleur candidat. Donc, les gens se laissent emballer par ces petits cadeaux et après, au finish, ils se plaignent toujours de n'avoir pas des dirigeants consciencieux, des gens qui prennent en compte leurs problèmes, etc. Donc, c'était une remarque intéressante de la part de cet auditeur malien.
Si on regarde un peu l'histoire du Mali, c'est un pays qui fut le modèle du continent, même dans le monde entier. On se rappelle de Sundiata Keïta, ce qu'il avait réussi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut espérer que les Maliens peuvent renouer avec l'esprit de Sundiata Keïta?
Les Maliens ont une conscience aiguë de leur riche passé et j'en ai eu la preuve en visitant le grand musée de Bamako récemment. Et l'aspiration de tous ces Maliens, c'est que le Mali retrouve sa splendeur d'antan.
Merci à Timothée Donangmaï pour toutes ces précisions, pour ce que vous avez vu au Mali. On espère que la présidentielle de dimanche va mieux se dérouler pour l'intérêt des Africains et des Maliens surtout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Votre vie peut changer quand vous changerez vos actions et vos actions peuvent changer quand vous changerez votre manière de penser. Oui, si vous ne pouvez pas réussir, vous pouvez essayer. Si vous pouvez essayer, vous pouvez réussir. Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à l'équipe technique qui a tout essayé malgré les incidents que nous avons connus. Merci à Timothée Donangmaï. Merci à l'équipe de la rédaction qui a aidé à réaliser cette édition. Tout de suite, les nouvelles continuent sur VOA Afrique.